Découvrez chaque semaine le patrimoine d'Embrun, présenté par Laura Giraud avec Corinne Clivio, guide conférencière pour la communauté de communes de Serpenson.
Corinne Clivio, vous êtes guide conférencière pour la communauté de communes de Serpenson. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de l'histoire et de l'architecture de la cathédrale d'Embrun.
Voilà, alors, ceux qui ont suivi l'épisode précédent, Embrun était capitale d'un archevêché, et sa cathédrale, en tout cas celle qu'on connaît aujourd'hui, a été édifiée à partir de 1170 jusqu'à 1220-1225. Hein, les historiens sont pas tous d'accord, entre 1220 et 1225, la cathédrale sera terminée, ce qui d'ailleurs permet de célébrer les 800 ans de la cathédrale d'Embrun depuis 2020 jusqu'en 2025, donc chaque année. Il y a un programme particulier pour célébrer non seulement les 800 ans de la cathédrale, mais aussi son rayonnement sur le territoire. Et donc, c'est l'occasion aussi de mettre en valeur des églises, des chapelles, dans le cadre de ces 800 ans. Mais pour en revenir à cette histoire de la cathédrale, en fait, la cathédrale d'Embrun donc est un bâtiment qui va être construit par tailleurs de pierre, des maîtres d'œuvre qui viennent en fait de la Lombardie. Et donc, ils vont venir avec leur savoir-faire, leur façon de construire, et une façon qui est un peu différente de ce qui se faisait à l'époque en France. Mais ceci étant dit, ils vont pas être non plus fermés aux influences, ce qui fait que cette cathédrale d'Embrun, elle est à la fois d'inspiration lombarde, je vais y revenir tout à l'heure, d'inspiration romane et d'inspiration gothique. L'inspiration lombarde, on peut s'en rendre compte quand on regarde la cathédrale, notamment l'utilisation des pierres de différentes couleurs. Il y a dans les encadrements des baies, il y a pour les voûtes, les arcades, vous avez l'alternance de pierres blanches et pierres noires. Donc ce jeu de couleurs, il est vraiment typiquement lombard. On a aussi le plan de l'église, qui n'est pas un plan en croix latine, comme habituellement pour les édifices catholiques, mais qui est un plan basilical, donc qui est en fait le plan d'origine des édifices religieux qui se calquaient en fait sur les basiliques romaines. Donc un plan beaucoup plus simple. Donc cette influence lombarde, elle se voit aussi par cet intermédiaire. Elle se voit aussi avec le porche à l'extérieur, qu'on appelle le porche au lion. Ça aussi, c'est une influence de la Lombardie, et d'ailleurs quand vous allez en Italie du Nord, vous avez des édifices, souvent des édifices religieux, qui ont des porches soutenus par des lions. Et donc on a aussi ça à la cathédrale d'Embrun. Et puis on a aussi le clocher. Le clocher avec la flèche pyramidale qui est entièrement en pierre. C'est pas une charpente avec une toiture, elle est entièrement en pierre. Et aux angles, on a ce qu'on appelle des pyramidions. Et donc cette organisation de clochers, on peut parler aussi, et souvent les clochers sont sur le côté, même quelquefois hors œuvre, ce qu'on appelle les campaniles en Italie, ben on a aussi cette influence très souvent dans la région qui vient de ces maîtres d'œuvre lombards. Et puis cette cathédrale d'Embrun, une fois qu'elle va être construite, elle va servir de modèle à toutes les églises qui vont se construire par la suite sur le diocèse ou même l'archidiocèse. Donc c'est pour ça qu'on a ce modèle qui va se répéter, et on a donc toutes les églises, ou la plupart des églises que l'on a ici dans la région, ressemblent à la cathédrale d'Embrun, avec souvent un porche au lion, même si quelquefois il a disparu, mais il a existé, avec ce clocher, avec cette flèche pyramidale et les pyramidions, et puis très souvent le jeu de couleurs aussi, donc avec, et c'est une des problématiques d'ailleurs de la cathédrale d'Embrun, au niveau des pierres, les pierres noires ce sont des schistes, et la particularité des schistes c'est de se déliter, et donc il y a eu des problèmes de stabilité, donc régulièrement la cathédrale d'Embrun elle doit être restaurée pour pouvoir remplacer les schistes qui se sont abîmés, et pour mention, il y a des travaux qui commencent là sur la façade ouest de la cathédrale, voire changer quelques pierres, et puis du coup en profiter pour faire une restauration, notamment de la peinture murale et de la rosace qui orne la façade occidentale.
Et concernant l'intérieur ?
Alors à l'intérieur, il y a beaucoup de décors qui sont intéressants, j'en citerai juste quelques-uns, parce que sinon on passe plusieurs heures. Il y a d'abord ce qui peut être très intéressant et qui frappe quand on rentre dans la cathédrale, c'est l'orgue. On a de grandes orgues qui sont accrochées au pilier. Ce n'est pas un orgue de tribune comme on peut voir à la Côte d'Anson. C'est un orgue qui est accroché à un
particulier sur une structure qu'on appelle la nid d'hirondelle, donc on parle souvent d'orgue sur nid d'hirondelle, et cet orgue date de la fin du XVe siècle. Mais il a beaucoup évolué, puisque avec la mode musicale évolue, donc au fur et à mesure du temps qui va passer, les modes qui vont évoluer, on va réadapter cet orgue. Donc il va y avoir de nombreuses restaurations, que ce soit au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, l'orgue va même être électrifié, et puis il va y avoir une grande restauration entre 2000 et 2010. Et ces orgues, quand elles ont été restaurées, il y a eu une musique qui a été faite dessus, et le restaurateur a réussi à bien répertorier et identifier les parties qui datent du XVe siècle, il y en a encore qui datent du XVe siècle, notamment le nid d'hirondelle que j'ai noté, la partie, la structure qui supporte la totalité des orgues, c'est une partie qui date du XVe siècle, mais si elle n'a pas la couleur d'origine, c'est une couleur marron, on a l'impression que c'est du bois, mais c'est de la peinture dessus, parce que dessous, on a une couleur un peu vert d'eau, qui était la couleur d'origine. On a d'autres éléments au niveau de l'instrument, au niveau du clavier, qui remonte à la période. Et puis sinon, tout le reste a été réadapté. Donc on a vraiment un orgue magnifique qui, vu sa dernière restauration, permet d'être utilisé régulièrement. Et on a d'ailleurs un organiste titulaire et un co-titulaire à Embrun, et ce qui fait que cet orgue est régulièrement utilisé. Et puis en été, il y a aussi un festival, l'heure de l'orgue, qui est jeudi, en principe jeudi à 18h, il y a un concert avec des organistes réputés qui viennent interpréter pièces qui sont adaptées au répertoire qui peut se faire sur cet orgue. Donc ça, c'est un premier élément qui vraiment voilà, qui frappe l'œil quand on rentre à l'intérieur. Quand on observe un peu, on peut aussi regarder une fresque qui date du XVe siècle qui représente la flagellation du Christ, qui est partielle, hein, qui a été abîmée, et c'est la seule qui subsiste. Et on suppose, comme la flagellation du Christ est un épisode de la Passion du Christ, on peut supposer que sur les autres piliers, on avait les autres épisodes de la Passion du Christ, et eux qui ont complètement disparu. Ce qu'on peut voir aussi comme mobilier, c'est un très beau maître-autel baroque qui a été offert par un archevêque en 1764 et qui a certainement remplacé un autre maître-autel qu'on a pris de Thrace. Mais ceci pour aussi vous faire comprendre que le mobilier que l'on trouve aujourd'hui dans la cathédrale d'Embrun, c'est un mobilier en fait qui a évolué, puisque en fait les archevêques considèrent que l'intérieur de la cathédrale représente aussi leur puissance, leur pouvoir. Donc chaque archevêque, quand il va arriver, va apporter, il va financer des décors qui vont permettre de montrer sa puissance et son pouvoir. Et comme les décors, comme la mise évolue en fonction des modes, eh bien en fait un décor va en supprimer un autre. Et c'est le cas par exemple de ce maître-autel baroque, qui est un très bel ouvrage hein, en marbre polychrome, mais qui date donc de 1764 et qui a remplacé un autre maître-autel. C'est un peu le cas pour tous les décors, les tableaux, les retables que l'on peut trouver dans la cathédrale. En fait, ça a évolué. Et il y a quand même une partie du trésor, ça il ne faut pas oublier. Le trésor de la cathédrale d'Embrun est très impressionnant avec les vêtements liturgiques, des objets d'orfèvrerie. Parce que, en fait, les archevêques, quand ils arrivent, ils vont offrir à la cathédrale à la fois des vêtements et des objets pour le culte. Et évidemment, tout ça, ça va s'accumuler, entre guillemets, et on va avoir vraiment un très beau trésor, même s'il y a eu des vols, même s'il y a eu des pillages, notamment lorsque les protestants ont occupé la ville d'Embrun à la fin du XVIe siècle. Il faut savoir que la cathédrale a même été transformée en temple, quelques années. Et donc, avec ces pillages, avec ces vols, il manque des éléments de trésor. Malgré tout, on a des vêtements, volumes, c'est imposant, hein. On a à peu près 500 vêtements liturgiques qui sont répertoriés, alors qu'ils viennent du 15e siècle jusqu'au 16e siècle. On a aussi des objets d'orfèvrerie, et puis de très nombreux tableaux aussi, qui datent du 16e siècle, donc des tableaux sur bois, avec des tableaux aussi sur toile, bien sûr. Et il faut savoir aussi qu'à la cathédrale d'Embrun, au fur et à mesure que les églises paroissiales d'Embrun ferment, sont démolies à cause de l'occupation protestante, eh bien le mobilier va être rapatrié en quelque sorte dans la cathédrale d'Embrun. Donc on a vraiment une palette de tableaux, d'éléments d'orfèvrerie, de vêtements liturgiques qui sont vraiment impressionnants. Et que je vous invite donc à visiter lors des visites qui sont régulièrement organisées pendant les vacances scolaires.
Merci beaucoup.